Vous écoutez
RMC. RMC, le ring des GG.
Attention, canicule.
Comme je l'ai dit, je le répète, on n'ira pas à la Coupe du Monde pour être favori, on ira pour écraser tout le monde.
Il fait très chaud.
La frappe du droit, but !
La température ne descend pas ou très peu la nuit.
C'est quoi, on est la meilleure équipe, en même temps on va gagner, quoi. Donc c'est roue libre. La finale,
on va tout gagner. Le but, c'est de tout gagner. On doit jouer les meilleures équipes. On va tout gagner et on va gagner la finale.
Pour vous protéger, adoptez les bons gestes. Évitez les efforts physiques.
Et le but ! Ousmane Dembélé ! Il est en feu ! Ce soir, le triplé d'Ousmane Dembélé ! C'est le match du Ballon d'Or ! Il est énorme ! Il est gigantesque !
Les risques existent pour votre santé. Le coup de chaleur et la déshydratation.
C'est au bout les gars, c'est au bout, c'est à nous, c'est la troisième là, ça y est, elle est prête là. Elle est prête, c'est pour nous.
Fièvre supérieure à 38 degrés, propos incohérents.
Ah, ça y est, c'est bon là, normalement la Suède, c'est Ikea, là on passe chez Ikea, on va leur faire un peu le même coup, tu vois. On va commencer tout doux, et après on va leur faire le chute, la spécialité. Ah, là,
si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15.
Qui était d'aller chercher cette Coupe du Monde. Ça a été une acclimatation.
Ah bah oui. Très bon. Très bon. Marion part suédois aussi. Allez les amis, c'est Marion.
Je me rappelle même pas de ce que j'ai voulu dire.
Je crois que c'était acclimatation, mais personne n'est capable de confirmer l'information.
Mais c'était très très compliqué.
C'est vrai que le parcours des Bleus est enthousiasmant. 3 victoires en 3 matchs, 10 buts inscrits, seulement 2 encaissés. 4 buts pour Mbappé, 4 buts pour Dembélé. La France a réalisé la meilleure phase de poule de son histoire et impacté le monde entier et surtout le public français. Les GG, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'on s'enflamme trop vite pour ces Bleus? Tiens, très rapidement, petit tour de table. Philippe?
Non, pas pour ce match.
Marion?
Non.
Cédric?
Le grand public, oui. En interne, non.
Jérôme?
Non, mais attention.
Attention, il y a des nuances quand même. Sur le compte X des grandes gueules du sport, est-ce qu'on s'enflamme trop vite pour ces Bleus? Eh bien, vous allez devoir convaincre le public qui dit oui à 58%. Donc, il y a quand même de la crainte. Attention à ne pas se voir trop beau avant cette phase éliminatoire. On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp, justement, pour vous écouter. Alors, je vais peut-être avoir un soutien du oui, un autre, parce que j'en ai parlé cette nuit avec Jean-Louis Tour, qui est au plus près des Bleus aux États-Unis, Jean-Louis.
Salut Georges, salut les grandes gueules, salut tout le monde.
Bon, Jean-Louis, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autour de cette équipe de France. Est-ce qu'on s'enflamme pas un peu trop? Qu'est-ce que t'en penses toi et qu'est-ce qui se dit sur place?
Oui, je trouve qu'on s'enflamme un peu vite sans pour autant que ce soit un reproche. C'est pas moi qui vais reprocher aux gens de s'enflammer vu l'état dans lequel je me mets pendant les matchs. Mais c'est vrai que j'attends les matchs couperés avec un adversaire qui joue vraiment sa survie dans la compétition. Et ça, on ne l'a pas vu. Et je pense qu'à partir des 16e, c'est une nouvelle Coupe du Monde dans ce sens-là qui commence, notamment dans ce rapport aux adversaires. D'ailleurs, les joueurs étaient plutôt sur cette ligne. Cette phase de poule à 3 victoires, c'est bien. Mais il y a encore beaucoup à faire. Dembélé, par exemple, après son triplé contre la Norvège.
Non, je suis content, c'est un moment unique et important pour moi. Comme je l'ai dit, la performance est bonne, mais il faut rester concentré, il y a des choses importantes qui vont arriver.
Des choses importantes arrivent, voilà. Même son de cloche chez Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain.
Maintenant que la phase de poule est terminée, les choses un peu plus sérieuses ont commencé. On a confiance en nous, on sait ce qu'on doit faire en tant qu'équipe pour gagner, et il va falloir qu'on continue et même élever encore le niveau.
Ouais, il dit même qu'il va falloir hausser son niveau de jeu. Alors ça va commencer contre la Suède, pas l'équipe la plus dure à manœuvrer a priori, mais qui offrira plus de résistance, sans aucun doute, que l'équipe B de Norvège et qui ouvrira moins le jeu. Ça, c'est une certitude pour moi.
Alors Jean-Louis, Didier Deschamps a retrouvé les Bleus hier. C'est quoi les infos à 2 jours d'affronter la Suède à New York?
Alors déjà, le retour du sélectionneur, c'est un moment important. Après 3 jours en France pour les obsèques de sa mère, on a pu le voir souriant, détendu à l'entraînement à la Bentley University, accordant beaucoup d'attention à certains joueurs qui ont peu ou pas du tout de temps de jeu depuis le début de la Coupe du Monde. Les Maxence Lacroix, Marnès Akliou, Jean-Philippe Mateta ou Ryan Cherki. Séance surtout pour les remplaçants à laquelle n'a pas participé Marcus Thuram, victime d'une gêne au mollet. Les Bleus qui s'entraîneront encore à 17h pour vous en France, 11h à Boston, avant de partir pour pour New York dans l'après-midi et préparer ce 16e de finale contre la Suède mardi 23h heure française.
Voilà, je remercie Jean-Louis évidemment avec qui on a eu cet échange cette nuit pour avoir les dernières informations sur les Bleus. Vous avez vu en plus il met à chaque fois les sirènes derrière pour montrer qu'il est à Boston aux États-Unis. C'est bon Jean-Louis, on a compris, hein. On a compris que c'était le jouet de ta fille.
Il est seul dans sa chambre avec
c'est ça, arrête un peu de nous faire croire.
Avec le camion
pompier s'enflamme donc trop vite pour ces Bleus. Jérôme, tu disais t'es un peu nuancé, pourquoi?
Je suis nuancé parce que ça y est, les 16e arrivent et on a le tableau final. Finalement, on sait que la France a un parcours très compliqué, qui va être très vite compliqué, puisque la Suède, ok, c'est un adversaire qui semble être à la portée, et si l'équipe de France joue ainsi, tout le monde semble être à sa portée. En revanche, le parcours vers la finale va être semé d'embûches. On peut rencontrer la Suède, l'Allemagne, l'Espagne pour arriver peut-être à se faire une finale face à l'Argentine, qu'on espère tous, cette fameuse revanche.
Qui est un tableau ouvert, là.
Et elle, de son côté, si on en revient au premier débat tout à l'heure, avec le Stade Toulousain qui a pu préparer le tableau de l'Argentine, le premier vrai adversaire à sa hauteur qui pourrait éventuellement gêner les coéquipiers de Messi, c'est l'Angleterre. Et ça n'arrivera qu'en demi-finale. Ça veut dire que la France va avoir à jouer beaucoup de matchs très difficiles.
C'est-à-dire qu'on risque de lâcher beaucoup de plumes, en fait.
Lâcher des plumes, et on va jouer à New York encore une fois contre la Suède, là. Avant de jouer à Boston, il va falloir passer les 16e, puis les 8e. Et en plus, on se rappelle, les joueurs de l'équipe de France se sont beaucoup plaints de la pelouse de New York qui est, selon les termes de Kylian Mbappé, très dure en fait, et injouable. Alors, moi, je dis pas qu'on va pas parce que cette équipe m'enthousiasme, parce que cette équipe me semble intouchable quand elle joue comme elle joue depuis ses trois premiers matchs. En revanche, ce sont des matchs couperets. Les autres nations vont jouer, elles aussi, leur survie dans cette compétition. Huitième de finale, si on passe la Suède, on est tout de suite face à l'Allemagne, et l'Allemagne, ça fait peur.
Et après, peut-être derrière, Pays-Bas ou Maroc,
par exemple. Maroc et voir l'Espagne. Donc, parcours très compliqué.
Ouais, moi, je dis que l'expérience de Didier Deschamps ne va pas permettre aux joueurs français de s'enflammer après que le grand public s'enflamme. Exactement. Forcément, on a envie, quand on voit ce qu'ils font, la phase de poule est terminée. Dembélé, 4 buts. Mbappé, 4 buts. Elle donne envie de s'enflammer, mais après l'expérience en interne, c'est complètement différent ce qui se passe dans le camp d'entraînement, dans les vestiaires, dans l'approche des matchs.
J'ai toute l'atmosphère autour.
Ouais. Je pense que là,
ils sont hermétiques à tout ça.
Ils sont hermétiques.
Ouais. Et puis surtout. Ouais, mais regardez Cherki il y a quelques semaines qui disait on va écraser tout le monde.
Il s'est fait reprendre de volée. Il s'est fait reprendre de volée.
C'est l'ego et la confiance. Mais c'est normal que les supporters s'enflamment parce que voilà, 10 buts. Ouais. Mais ils rentrent dans une nouvelle compétition. Maintenant, c'est tu gagnes ou tu rentres à la maison.
Mais c'est donc, pour ça que c'est.
Donc là-dessus, je pense. Ouais, mais je pense que l'expérience de Didier Deschamps, mais même l'expérience des joueurs. De l'équipe de France, sincèrement, là, ils vont vraiment rentrer dans une nouvelle compétition. Alors, pour aller en finale, ça va être compliqué, mais sur ce match contre la Suède, qui, quand même, défensivement, c'est.
Ah bah c'est une équipe qui est même miraculeusement qualifiée.
C'est,
hein.
c'est les portes de Saint-Louis, oui, au niveau de la défense, donc je pense pas que sur ce match-là.
La force offensive de l'équipe de France, elle est incroyable.
Elle est monstrueuse.
Après, défensivement, il faudra faire attention dans les couloirs, mais quand tu vas jouer quand tu vas jouer face à des équipes qui vont jouer à 10 derrière, il va falloir trouver des solutions.
Mais tu les auras plus ça. Ouais. Tu n'auras plus ce genre d'adversaire. La Suède peut jouer à 10 derrière. Après derrière, tu vas être obligé de jouer. T'es un match couperé. Non, après ce qui est un très bon avertissement, c'est la suffisance des 2-3 minutes qu'ont suivi le troisième but,
le deuxième but contre la Norvège.
Tu reviens pas, tu te replaces pas. Tu
imagine Deschamps comme il va se servir de ça.
Bien sûr.
Il va appuyer sur ce bouton.
Là où il était, j'imagine qu'il avait tant de choses à faire, mais il n'a pas dû aimer les 5 minutes.
Non. Marion, on s'enflamme trop vite ou toi tu dis non, c'est ça?
Non, mais moi je suis complètement d'accord avec mes collègues. Effectivement, je pense qu'il faut différencier un enthousiasme général au vu des performances de l'équipe de France de la part du public, et on a raison d'être enthousiaste pour notre équipe. Franchement, vu ce qu'ils produisent en termes de niveau de jeu, il y a quand même 10 buts en 3 matchs, ça serait quand même difficile de dire ouais, non, franchement, c'est très moyen. Enfin, tu vois, il faut quand même être réaliste. Ils produisent du jeu. Il y a Dembélé qui se met à marquer en équipe de France. Auparavant, on pourrait dire oui, Ousmane en club, il joue bien, mais en équipe de France, c'est plus compliqué. Là, il fait des matchs équipe de France qui sont monstrueux. Mbappé, il est en mission, il est remonté comme un coucou, il est en train vraiment de faire une Coupe du Monde pour l'instant qui est énorme. Donc pour moi, La différence, c'est qu'effectivement, le sélectionneur et les joueurs surtout qui ont eu l'habitude soit d'être champion du monde, soit de gagner la Champions League pour
bien
certains,
sûr.
Soit de toute façon, ils jouent tous dans d'immenses clubs européens, ils ont l'habitude d'aller très loin dans les compétitions et de jouer des matchs à fort enjeu. Ils le savent parfaitement qu'il faut garder la tête froide, que chaque match est bien évidemment à prendre extrêmement au sérieux, qu'on ne peut pas se relâcher, qu'on va rentrer dans les matchs couperets et que donc, et on a l'exemple surtout avec la jurisprudence de l'Euro avec ce fameux match contre la Suisse où on menait largement et puis il y a eu 15 minutes, 20 minutes de suffisance et puis le résultat final, on le connaît.
Ouais, ça,
on
a des expériences. Années, ouais. Ouais, on avait perdu
oui, mais ça but. Sert.
Ouais, bien sûr.
Voilà, mais ça sert. Ah, et je pense que Didier va se servir de ça pour leur dire justement, attention les gars, on joue bien, mais on continue, on resserre, on fait attention aux défenses. Là où ça me fait un petit peu peur, franchement, c'est sur le poste de latéral gauche.
Alors, mais justement,
parce qu'entre Digne et Théo Hernandez, c'est pour l'instant la petite faiblesse qu'on a dans cette équipe.
Mais
pour
alors, le tu reste, sais que c'est, attaque, ce sont les messages que je lis, Marion. Hein. Il y a ce genre de messages. On est très fort en attaque, me dit Fred. Mais on est friable au milieu de terrain et en défense, donc c'est loin d'être gagné. Attention, parce qu'on n'a pas joué contre des équipes avec des milieux performants et des défenses efficaces.
Gauche,
entre Théo Hernandez et Lucas Digne. Martial me dit sur WhatsApp, comme tu disais, Jérôme, attention car notre partie de tableau est très difficile jusqu'à une éventuelle finale. Attention, pas se voir peut-être trop beau. Tout de suite, on a Franck au 32-16 qui nous appelle du Calvados. Salut Franck.
Salut à tous. Bon dimanche à tous.
Bah, toi aussi. Est-ce qu'on ne voit pas un peu trop beau trop vite, Franck?
Bah, moi, je suis un peu dans le bon camp. Je suis dans un camp pessimiste. Moi, oui, c'est différent.
Ah oui, à ce point.
Pourquoi? Oui, parce que moi, je les vois pas du tout dans le carré final déjà.
Ah mais non, mais ah bon, qu'est-ce que tu as vu qui t'inquiète à ce point?
Bah,
qui,
moi,
qui
le carré final, pour moi, l'autre côté, c'est Angleterre-Argentine et puis de l'autre côté, c'est Espagne-Allemagne. Parce que je suis désolé.
L'Allemagne qui a perdu sur l'Équateur.
Non, mais oui, la même
chose. T'as regardé les matchs de l'Allemagne?
Oui.
T'as regardé les matchs de l'Allemagne?
Laissez Franck parler, laissez Franck parler.
Et vous verrez que l'Allemagne, ils vont monter en puissance.
C'est possible.
Mais là, il va falloir vraiment qu'ils montent en puissance. Parce qu'on
va voir, on va voir. Parce que, dans l'autre sens, comme on dit, si on veut gagner une Coupe du Monde, il faut avoir une défense de fer. D'accord? Donc, moi, on a joué l'équipe B de la Norvège. J'ai vu Opa Mécano nous faire quelques absences. Ouais. Après, comme a dit Marion, et c'est vrai, les latéraux, bon, Koundé, c'est pas top player. Après, on a ce problème de Hernandez ou Kadine remplaçant Aston Villa et Théo Hernandez qui joue en Arabie Saoudite Football Club et qui a pas de niveau. C'est ce qui m'inquiète le plus. Saliba, son gros problème de dos, il joue avec un gros mal de dos à Arsenal depuis pas mal de temps. Et je ne vois pas avec cette défense-là, parce que moi j'ai vu c'est Norvège B qu'on a joué. Hein.
Oui, non, mais c'est donc, vrai, on rappelle Haaland, Odegaard, enfin il y a eu 10 joueurs qui avaient été laissés sur le banc.
Alors,
mais
on a une
en fait, toi, Franck, tu t'enflammerais si on passe, bon déjà il faut battre la Suède, mais si on passe l'Allemagne en 8e
oui,
de finale. C'est-à-dire
non,
que
tout à fait, parce
avant,
que
bon, t'es encore prudent. Bah,
la Suède, effectivement, si on bat pas la Suède, tout le monde va dire on n'a rien à faire dans cette Coupe du Monde, je suis d'accord. J'espère qu'ils nous emmèneront jamais en prolongation, je souhaite. On sait jamais ce qui peut se passer parce que je pense que ça va bétonner. Mais moi, j'ai vu l'Allemagne ou quoi que ce soit. Moi, je vois souvent qu'on gagne la Coupe du Monde quand on monte en puissance petit à petit. Hein, les grosses équipes qui attaquent
là, c'est
la
bien,
Coupe
avec
du
les
Monde.
Phases de poule, tu montes en puissance.
Non, mais en phase de poule, quand l'Argentine se fait battre par l'Arabie Saoudite, on dit l'Argentine ne gagnera jamais la Coupe du Monde.
Il y a 4 ans. Oui. Derrière, ils ont gagné.
Donc, mais... voilà. Et il y a les comme du monde. En général, les équipes qui commencent doucement finissent très très fort. C'est comme en phase de poule.
Bah là, c'est un peu l'inconnu, hein, parce que comme c'est une Coupe du Monde à 48, c'est vrai qu'il y a un match en plus, notamment avec ces 16e de finale. Donc sur la capacité à enchaîner et à continuer, finalement, on ne sait pas trop si commencer fort ou commencer faiblement à une vraie incidence.
Quand auparavant, l'équipe de France commençait ses matchs extrêmement poussivement, avec des petits 1-0, avec aucune attaque, avec un jeu complètement fermé, on leur tombait dessus en disant, ouais, mais de toute façon, l'équipe de Dédé Deschamps, ça produit aucun jeu, et c'est qu'un jeu où finalement, ça fait que défendre, et c'est très pénible à regarder. Là, ça produit du jeu, ça marque, on leur dit, ouais, non, mais attention, faut pas commencer trop vite. Ah, mais attends, ça va jamais. À un moment donné.
Bah oui,
non, mais c'est vrai.
Qu'on fait des émissions de débat, hein, Marion.
Non, mais pour moi, aujourd'hui, la réaction d'Ousmane Dembélé me fait très plaisir après ce match, justement, contre la Norvège, remporté 4-1. Il n'était pas souriant. On voit qu'il est très concentré. Ils disent que, voilà, tu l'écoutes dans ses déclarations. On dit attention, ça reste que des matchs de poule.
Oui, on a l'impression de voir le Dembélé
est encore extrêmement
de la Ligue des Champions, Marion.
Voilà,
en fait,
exactement. Et ces joueurs-là, à l'année, ils ont l'habitude de gérer ces moments à forte pression. Et je pense que c'est ce qui va énormément les aider. Et les automatismes qu'ils ont arrivé à créer avec ce 11 de base, franchement, ça fait plaisir. Là où je suis d'accord complètement avec Franck, c'est que c'est vrai que ce latéral gauche, ça me fait très peur. Ça,
je remercie Franck de nous avoir appris. appeler au 32-16. Tout le monde n'est pas d'accord avec Franck, notamment Xavier qui me dit je suis du Calvados et je me désolidarise. D'accord, oui. Tout le Calvados n'est pas d'accord sur est-ce qu'on s'emballe trop vite avec cette équipe de France. Philippe et Cédric, vous avez joué des Coupes du Monde et vous avez managé aussi des
Coupes du Monde.
Mais quand la phase de poule se termine, parce que là en fait ce que nous dit Franck par exemple, c'est de ne tirons pas des conclusions trop rapides, positives après la phase de groupe. Quand on commence la phase éliminatoire, c'est quoi toi, manager Philippe, tu dis ouais. Ça n'a pas compté avant.
Après, c'est mieux quand même de marquer des buts et d'avoir une équipe qui est en pleine confiance. Après, défensivement, tu as envie de dire aussi que les matchs étaient assez faciles, donc ils ont pris un peu plus de risques sur les relances, etc. Et que dès que tu vas rentrer dans des matchs de moins RT, ils vont beaucoup plus cadenasser.
Tu dis à tes joueurs, attention, ça sera pas la même intensité.
Voilà, exactement. Mais je suis d'accord avec Marion quand elle dit avant, on disait, ouais, l'équipe de France ne joue pas 1-0, on s'emmerde. Là, on voit des buts, on voit une équipe qui est pétillante. Eh ben, tant mieux. Alors après, la seule chose, peut-être qu'il aurait pu faire tourner un peu plus. Sur les trois premiers matchs.
Ouais, sur le match 3 notamment.
Sur le match 3, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont fait tourner, parce que cette compétition, il y a un match supplémentaire.
Et peu de jours pour préparer ce match.
Et peu de jours. Bon, après, c'est
sauf,
un choix.
Sauf que tu es dans un système où tu es à la recherche des automatismes entre nos quatre attaquants. Ouais. Et tu es finalement que sur le troisième match enchaîné avec ce système-là, et pour mettre Dembélé en
pleine confiance, il faut l'utiliser
de ne pas faire tourner devant, je pense que ça a été une très bonne chose.
Ouais, c'est vrai que moi, après 16e, 8e, quart, demi-finale,
Moi, c'est le switch mental. Les joueurs, ils vont le faire. Ils savent très bien, comme l'a dit Philippe, il y a des efforts que tu fais pas en poule quand tu maîtrises que en match éliminatoire tu vas faire. Il y a des courses de soutien que tu fais naturellement. Ouais. T'as cette fameuse peut-être disquette du sportif de haut niveau qui va s'enclencher. Et là,
tu les vois dans le vestiaire, Cédric, ceux qui commencent à avoir le cigare là avant la phase finale. Genre on se voit trop beau.
Moi, Toulouse, c'est interdit. Hein. Oula.
Je pense que ça n'arrivera pas dans ce groupe-là.
Non.
Comme l'a dit Marion, ils jouent tous à très haut niveau. Ils sont dans des grands championnats, dans les grands clubs.
Mentalement, psychologiquement, ils savent très bien où ils en sont. Il faut pas croire qu'ils ont de la suffisance parce qu'ils ont mis 10 buts. Ils savent très bien quel était le niveau de leur adversaire. Ils savent très bien que c'était une équipe 3 de la Norvège. Ils savent très bien que le prochain match.
Je pense que Didier Deschamps,
il va bien rappeler.
Que tu fais pas et que tu fais tout d'un coup. Et la relance que tu tentes pas, mais que tu préfères mettre sur le côté pour passer et faire une passe de plus. Tout ça, ça rentre.
Non, mais c'est ça, la suffisance qu'on a pu voir peut-être c'est après le deuxième but face à la Norvège dans un match muerté, comme dit Philippe.
Et surtout, ce qu'on peut retenir, c'est que le monde entier nous envie nos attaquants et que tout le monde le dit et on l'a vérifié. Dès qu'il y a un coup de mou, derrière, ça réaccélère et ça remarque un but dans les moins de 5 minutes. La France, et je pense, c'est une des premières fois qu'on voit ça dans notre équipe nationale, capable de marquer à tout moment et de mettre beaucoup de buts.
Et face à n'importe qui.
Ça change les choses parce que, il faut être solide derrière. Ok, il y a peut-être quelques faiblesses sur les couloirs, mais devant, tu sais que tu peux en prendre deux, mais tu vas en mettre quatre. C'est la grosse différence.
Mais tu sais, on a eu la chance de pouvoir assister au discours de Didier dans les vestiaires pour préparer le match de l'Irak.
Bien sûr.
Et on voit et on sent et on ressent justement à la fois toute l'étude des équipes adverses avec systématiquement le plan de jeu expliqué de l'équipe adverse, les qualités de l'équipe adverse, le fait justement tout de suite d'insister, de surtout pas les prendre de haut, d'être concentré sur chaque élément, que chaque équipe qui est qualifiée en Coupe du Monde et encore plus celles qui sont qualifiées en 16e de finale, de toute façon, sont des équipes avec de la qualité. Donc je pense qu'on peut faire vraiment confiance
à ces sélectionneurs pour totalement les garder. C'est un management.
Pour les garder totalement concentrés sur l'objectif, sous
pression. Il leur fait toucher du doigt. Attention que la suffisance va nous pénaliser. Quand tu jouais la France avant, tu te posais des questions de savoir comment tu allais pouvoir marquer parce qu'ils avaient une telle assise défensive qui était monstrueuse. Maintenant, tu te poses la question, c'est comment pas prendre de but.
S'enflamme-t-on trop vite? C'est pas facile à dire. Pour ces bleus, vous dites sur le compte XDGG du sport, oui à 56%. Donc vous avez quand même... vous avez gagné 2 points. Vous avez convaincu nos éditeurs et auditrices. C'est pour ça que vous êtes autour de la table parce que vous êtes très convaincants. Les amis, évidemment. France-Suède, je rappelle, ce sera mardi soir à suivre sur RMC. Toutes les informations bien sûr sur rmcsport.fr et sur notre antenne. Je rappelle le parcours probable des Bleus. France-Suède, donc. Huitième de finale possible face à l'Allemagne. Quart de finale éventuel, il peut y avoir les Pays-Bas ou le Maroc. Une demi-finale, on pourrait retrouver le Portugal, l'Espagne, la Belgique, la Croatie. Et de l'autre côté du tableau, il y a les Brésiliens, il y a les Argentins, il y a les Anglais notamment qui pourraient peut-être nous attendre sur la route d'une potentielle troisième étoile. Allez, dans un instant, on retourne à Wimbledon où se trouve Marion Bartoli parce que Serena Williams est de retour à 44 ans. Et Marion va nous expliquer pourquoi c'est génial. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Avec Jérôme Pinault, avec Philippe Saint-André, Marion Bartoli, Cédric Aymon, c'est vous au 32-16. Dans un instant, on va revenir sur la finale du top 14, remportée par les Toulousains hier face à Montpellier, remportée de 8 petits points. On va écouter la punchline d'Auguste Cadeau, le centre du MHR, qui dit se bouffer les doigts, tout simplement, je le dis tel quel. Oui, c'est bien ça. Est-ce que les rouges et noirs étaient vraiment prenables sur cette finale? Parce que les Montpellierains disent avoir des regrets. Mais d'abord, on est à J-1 avant le début de Wimbledon. Marion Bartoli, qui d'autre va mettre le brassard de capitaine des GG?
RMC, Captain Bartoli met le brassard.
Oui, c'est sérieux, hein. Marion, elle se racle la gorge et tout avant de prendre la parole. Hein. Marion, c'est l'événement. C'est l'événement à 44 ans. Serena Williams donc fait son grand retour à Wimbledon. 4 ans après son dernier match en simple à l'US Open, elle affrontera l'Australienne Maya Joint, classée au 53e rang mondial. Marion, oui. Alors c'est un retour qui fait beaucoup parlé, on en avait déjà parlé au moment de son retour en double, mais là c'est vrai que c'est à Wimbledon, c'est en simple, ça divise un peu, mais alors toi ça t'excite énormément, est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Alors je vais vous faire une confidence les amis, quand j'ai appris que Serena revenait en simple à Wimbledon, j'ai eu des frissons, de vrais frissons, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on est amis, parce que Serena ce n'est pas seulement 23 titres du Grand Chelem, c'est pas seulement l'une des plus grandes championnes de tous les temps, Serena c'est surtout une émotion. J'ai eu le privilège de l'affronter, bien évidemment, je sais ce que cela représente, surtout de se retrouver de l'autre côté du filet face à elle. Quand Serena entre sur un court, je peux vous le certifier, l'atmosphère change, le stade se tait, puis s'enflamme devant ses coups gagnants, elle dégage quelque chose que très peu de sportifs dans l'histoire ont dégagé, une aura. Et puis Wimbledon, ce n'est pas un tournoi particulier pour elle, c'est surtout sa maison, c'est son jardin. C'est là qu'elle a bâti sa légende, là qu'elle a inspiré des générations entières de petites filles à croire qu'elles avaient, elles aussi, le droit de rêver en grand. Parce qu'il existe des champions qui gagnent des titres et il existe des légendes qui nous manquent quand elles s'en vont. Serena Williams appartient à cette deuxième catégorie et c'est pour cela que son retour me touche autant et nous touche autant, parce que demain, quand elle foulera à nouveau le gazon de Wimbledon, je ne verrai pas seulement une joueuse revenir, je verrai une partie de l'histoire du tennis reprendre vie. Et honnêtement, je suis comme une petite fille, je vous l'ai dit, je suis impatiente, je suis excitée, surtout je suis profondément heureuse, parce que de voir une amie, de pouvoir la resserrer dans mes bras juste avant un tournoi du Grand Chelem. Parce que certains retours nous rappellent pourquoi nous sommes trouvés amoureux de ce sport et de mon sport qui est le tennis. Le retour de Serena Williams à Wimbledon, ce n'est pas seulement un comeback, c'est un cadeau pour le tennis. Et parfois, les plus belles victoires ne se mesurent pas en trophées, elles se mesurent aux émotions que certaines légendes continuent de nous offrir. Et c'est pour tout cela que je suis la plus heureuse du monde que Serena Williams puisse reprendre la voie des cours ce mardi à Wimbledon.
C'est un cadeau, nous dit Capitaine Bartoli. Serena Williams, c'est une émotion. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui dévise, hein, le retour de Serena Williams pour ce qu'elle va apporter, mais voilà, on comprend évidemment l'enthousiasme de Marion, tu vas nous en parler dans un instant, en plus tu l'as rencontré cette semaine. Mais alors Philippe, c'est un cadeau pour le tennis féminin, comme le dit Marion?
C'est une grande championne. Alors après, moi, j'ai des questions à poser à Marion, parce qu'à 44 ans, comment elle est physiquement? Parce qu'on sait...
Il faudrait pas que ce soit un cadeau empoisonné.
Oui, on sait la complexité du tennis de haut niveau, surtout en plus sur gazon. Alors après, elle a un bras exceptionnel, mais est-ce qu'elle est capable d'enchaîner des matchs? Est-ce qu'elle est bien physiquement? C'est la première question que j'ai envie de poser à Marion.
Alors écoute, j'ai pu assister à 3 de ses entraînements. Elle a fait des sets d'entraînement tous les jours avec des filles. Alors pour connaître Serena, je te l'ai dit, depuis plus de 20 ans, elle ne faisait jamais ça auparavant. Elle s'entraînait toujours qu'avec des sparring partners.
Ah oui.
Et en fait, parce qu'elle jouait toute l'année sur le circuit, là, comme elle n'a aucun point de repère par rapport aux filles actuelles du circuit, elle a voulu faire des sets d'entraînement tous les jours. Elle n'en a pas perdu, hein.
Arrête.
À l'entraînement. Non, je te jure. Et surtout, elle a affronté donc Marta Kostiuk, que vous avez dû entendre ce nom. Elle vient de faire demi-finale à Roland-Garros. Elle avait remporté un gros Master 1000 sur terre battue juste avant Roland-Garros également. Et elle l'a battue sur un set d'entraînement en jouant. Franchement, ça me faisait rigoler. J'en rigolais avec son agent parce que j'avais l'impression que le temps s'était arrêté, qu'on revenait 20 ans en arrière,
c'est
qu'elle mettait 3 aces par jeu et qu'elle était en retour gagnant.
À chaque fois qu'elle avait.
Exactement, quelques fois. Je ne sais pas si elle peut gagner parce que la réponse, et tu l'as posé la question parfaitement, et je crois que personne n'a la réponse aujourd'hui, ça va être l'enchaînement des matchs. En revanche, est-ce qu'elle est affûtée? Oui. Est-ce qu'elle se déplace bien sur le terrain? Oui. Est-ce qu'elle a une frappe de balle toujours aussi monstrueuse? Oui. Est-ce qu'elle a une envie immense de reprendre la raquette et de jouer? Oui. Donc, pour tout ça, je crois qu'elle va en surprendre plus d'un. Après, de savoir jusqu'où elle va aller, c'est très difficile. Ce que je peux t'assurer, c'est que tout le monde va avoir peur de la jouer. Ouais. Ça, de manière certaine. Parce que ça, c'est très compliqué de rentrer sur le terrain quand tu vas avoir tout le public quasiment contre toi, parce que tout le monde, bien sûr,
va être avec Serena.
C'est l'histoire, mais c'est, les audiences vont exploser, mais même au-delà des suiveurs de tennis, toutes les chaînes, le nombre d'accréditations.
Ah bah, tout le monde connaît Serena Williams, c'est peut-être la plus grande sportive de tous les temps, et l'une des plus grandes sportives de tous les temps.
Ça se pose des questions. En France, ça se pose des questions, on s'en fout de son âge. Moi, je suis content de l'avoir. Alors, j'en ai pas des frissons comme Marion, mais je suis content de l'avoir revenir. Elle se pose pas de questions. Elle est là. Elle prend sa chance. Une nouvelle. J'ai pas envie de dire une nouvelle vie, mais c'est une grande expérience pour elle. Elle se sent prête. Mais vas-y, lance-toi à feu, quoi.
Jérôme est un peu plus nuancé, je crois.
Ah, j'ai encore me faire des copains du côté des tennis avec mes déclarations de Nadal la semaine dernière. Moi, je trouve que si elle revient et qu'elle domine et qu'elle gagne des matchs, ça va discréditer le circuit féminin.
Non, mais il y a beaucoup de messages comme ça, Jérôme, hein, je te le dis, hein, moi, de nos auditeurs. Qu'est-ce qui se passe si elle gagne? Qu'est-ce que ça dira du niveau du tennis féminin?
Dans le cyclisme, Anna van der Breggen a été une grande championne par le passé. Elle est montée dans la voiture pendant 3-4 ans. On nous a vendu du cyclisme féminin qui progressait, des filles qui étaient à très haut niveau et qui étaient proches de ce que faisaient les garçons et on avançait dans les performances. Elle revient 4 ans après et elle fait deuxième de la Vuelta et elle regagne. Pendant ce temps-là, finalement, c'est que les autres n'ont pas tellement progressé.
Quand elle se blesse, qu'elle revient, tout le monde l'a attaqué sur son âge, sur comment elle peut revenir. Et elle a gagné. Il y a une chose qui était différente.
Mais la question qu'on a posée aussi, Cédric, c'était différente.
Est-ce que les autres sont au niveau? S'est préparée de manière différente. C'est-à-dire que grâce à son sponsor principal, elle a pu avoir un staff autour d'elle, rien que pour elle. Oui. Contrairement aux skieuses qui, elles, étaient dans des fédérations. La façon de se préparer est différente. Et je pense que là, Serena Williams. Serena Williams, elle doit se préparer de manière totalement différente. Elle peut pas peut-être tout enchaîner, mais elle a une préparation adaptée à elle. Et c'est ça qui fait la différence.
Marion veut répondre. Ouais. Je crois que Marion veut répondre.
Vas-y,
droit de réponse, Marion.
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi sur Lindsey Vonn. Et en plus, on a eu la chance de l'interviewer. Je suis complètement alignée avec toi. Et encore une fois, là où j'aimerais vraiment mettre l'accent, c'est qu'on parle de la GOAT. C'est-à-dire que moi, là, si aujourd'hui j'essaie de prendre la raquette et de revenir, je serais totalement ridicule. Donc en fait, tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Non mais en fait tu vois, c'est-à-dire qu'il y a
juste que elle.
Non mais ça devrait y arriver par contre. Non, ça je devrais y arriver, ça je vous promets, je crois que je suis assez affûtée pour ça.
Donc ça me
suffirait.
Même
risque
de fermer, mais... pareil, en ce moment.
Non mais tu peux pas juger le niveau féminin que uniquement si la GOAT revient et qu'elle gagne, parce qu'il y a que elle qui en a la capacité. On parle de Lindsey Vonn, je le mets dans la même catégorie que Serena. Ce sont des championnes totalement exceptionnelles. C'est comme Novak Djokovic qui à son âge continue à challenger et à battre Yannick Sinner en demi-finale Open d'Australie.
C'est pas pareil.
Oui, mais quand même d'être capable en 5-7 en plus de 5 heures d'aller battre Yannick Sinner qui a je sais pas combien d'années de moins que lui, il y a que quasiment que Novak qui est capable de faire ça, tu vois. Même Roger par exemple sur sa dernière année malheureusement avec sa blessure.
Marion, elle peut jouer Iga Swiatek au 3e tour. Donc la gagnante sort. L'ancien numéro 1 mondial. Toi, si elle bat Swiatek, est-ce que ça va pas déclencher quand même un petit malaise en fait sur le niveau du tennis féminin? C'est ça que je veux dire. Selon le score.
Non, ça déclenchera pas de malaise parce que Serena Williams est totalement unique et qu'on voit que même que sa sœur Venus, qui a pourtant été une immense championne, elle m'a battue en finale de Wimbledon et pas que moi, elle a gagné énormément de fois au Wimbledon et énormément de grands chelems, bah en simple, elle n'arrive pas à revenir. Donc si Serena arrive à le faire, c'est un exploit qui est monumental. Et moi, je veux pas qu'on rabaisse l'exploit en disant juste de manière vraiment.
Dénigrer l'exploit,
ils disent ah ouais,
c'est-à-dire qu'on dénigrerait le niveau de Serena et le niveau du sport du tennis féminin.
Voilà, je veux vraiment pas le faire parce que c'est injuste, et c'est vraiment ne pas arriver à comprendre l'exploit que ça représente, mais surtout la joueuse qu'a été Serena Williams et la joueuse que j'espère elle va être quand elle va prendre le terrain dans deux jours.
Philippe.
Et ça, pour moi, il n'y a que elle qui sera en capacité de le faire. Je n'en vois pas une autre.
Ce qui serait incroyable, c'est de voir Serena en deuxième semaine. Et de voir après, à 44 ans, comment elle fait pour enchaîner les matchs et récupérer. Alors après, sur où je suis d'accord avec Marion, c'est que c'est une championne exceptionnelle. Si en plus elle est affûtée comme jamais.
Non, mais c'est vrai qu'elle est affûtée. On a vu des photos, Marion. Elle a déjà été aussi affûtée, Serena Williams, en vrai.
Ouais, quand je la jouais, ouais, elle était aussi affûtée, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas été aussi affûtée que ça. Mais après, vous savez comment elle a fait pour s'affûter. Ça a été publié de partout sur Internet, donc je révèle absolument rien. Mais je veux dire, c'est une joueuse.
Rappelle-le, parce que nos auditeurs ne le savent pas.
En fait, son mari est au board d'une entreprise, une société qui a des médicaments pour le GLP-1, donc qui sont des injections qu'on doit faire normalement lorsqu'on a du diabète et qui sont actuellement extrêmement vendues aux États-Unis sur des gens qui ont malheureusement un surpoids. Et donc Serena, on a fait la promotion, elle a été sur des énormes talk shows aux États-Unis comme celui d'Oprah, etc. Oprah d'ailleurs qui avait suivi les mêmes ordonnances, prescrit exactement les mêmes médicaments ou les injections, je sais pas comment vous voulez les appeler, et donc ça lui a permis de s'affûter énormément, de perdre énormément de poids. Alors
ça,
on a suivi on
n'est pas sur des produits juste, je précise, parce qu'on sait l'amalgame qu'il peut y avoir,
ce sont
pour les produits qui sont sur la liste de produits dopants, hein, Marion.
Absolument, mais il faut se piquer pas, hein. Et surtout,
en cyclisme ça se pose un problème.
Elle est inscrite sur la liste des athlètes qui sont en capacité d'être testés sur le plan des contrats antidopage depuis plus de 6 mois, puisqu'il faut être validé depuis plus de 6 mois pour avoir le droit de reprendre la compétition. Enfin, elle a entamé toutes les démarches, elle a suivi tout ce processus. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'elle avait en tête depuis pas mal de temps.
Donc, est-ce que c'est une opération commerciale aussi ou pas?
Non, alors là du tout. J'en ai discuté avec elle, j'ai discuté pendant un quart d'heure avec elle quand elle a terminé son set d'entraînement avec Marta Kostiuk. Elle veut jouer devant ses filles, c'est très très important pour elle de voir ses enfants dans la tribune et de voir ce que leur maman est capable de faire et de ce que leur maman est, ce qui est d'ailleurs une immense championne de tennis. Elle adore ce sport lui manquait tous les jours. Andy Murray en a parlé très justement, puisqu'il lui a posé la question également, et Serena lui a dit: t'as pas envie de revenir? Elle lui a dit: non, franchement, le tennis me manque pas assez pour pouvoir revenir. Et Serena lui a dit: moi, le tennis me manquait tous les jours. C'est vraiment une fille qui est passionnée par son sport, et ça, je trouve ça fabuleux quand on a autant gagné comme elle, d'avoir gardé cette passion enfantine, d'être juste heureuse d'être sur un terrain et d'être en compétition. Moi, je trouve ça une fabuleuse publicité.
Mais Marion, elle revient pour ça, pour prendre du plaisir, s'amuser, elle a rien à prouver. Et est-ce qu'elle frappe toujours aussi fort? Est-ce qu'elle frappe toujours aussi fort?
Ah ouais, ça c'est sûr. C'est pour ça que je rigolais avec son agent, parce que je disais: moi, j'ai subi ça pendant 15 ans, de prendre 3 aces en jeu contre elle. Donc ça me fait plaisir de voir les filles maintenant qui, entre guillemets, sont énervées de prendre 3 aces par jeu contre elle. Il y avait Marta Kostiuk qui balançait la balle contre la bâche, qui lance la raquette de dépit en set d'entraînement contre elle. Ça fait vraiment assez, pas mal rigoler.
Alors ça, évidemment, voilà, Serena Williams qu'on retrouvera demain, hein, 44 ans, elle gagne le plus de tournois du Grand Chelem chez les dames, 23 titres en simple, 7 Wimbledon, hein, donc elle est quand même dans son jardin, elle a gagné les JO de Londres également là-bas. Il y a plein de messages, hein, sur WhatsApp. Globalement, ça divise, hein, c'est ce que je disais au début. Il y a ceux qui ont peur, effectivement, sur les répercussions que ça peut avoir sur le tennis féminin. Il y a ceux qui pensent que c'est du marketing. Il y a ceux qui sont très contents de revoir effectivement cette joueuse qui est la GOAT, ou celles qui se disent: bah, peut-être que ce sera juste un petit tour et on la reverra plus derrière. Donc voilà, on va voir effectivement ce que va donner Serena Williams. Ce qui est sûr, c'est que c'est une grande curiosité. Comme tu le disais, Marion, il va y avoir certainement des audiences monstrueuses pour le retour de la plus grande joueuse de tous les temps en tennis, et peut-être la plus grande sportive de tous les temps, tout simplement, tout sport confondu. On va suivre ça évidemment, parce que tu sais, Marion, tu vas voir arriver Eric Salio aujourd'hui qui est dans l'Eurostar avec son Bermuda qui arrive. Bermuda blanc, hein, je pense, parce qu'il y a un dress code à respecter à Wimbledon. On fait attention. Évidemment. Allez, on revient dans un instant, on va reparler de la finale du top 14. Toulouse a conservé son bouclier de Brennus pour la 4e année consécutive. Est-ce que Montpellier aurait pu finalement faire tomber les Toulousains? Est-ce que Toulouse était prenable? On en parle avec vous dans la punchline tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
avec Mario Martulli à Wimbledon, avec Cédric Clément, c'est Philippe Saint-André au lendemain de la finale du top 14, avec Jérôme Pinault à une semaine du départ du Tour de France sur RMC, à 6 jours même. Dans un instant, dans le vestiaire, on va parler de la gestion de l'ego dans le sport de haut niveau. Tout le monde en a, tout le monde a assumé d'en avoir à la table des grandes gueules du sport. On va en parler dans un instant.
Encore, hein?
Ah oui, encore de l'ego?
Ah, ben bien sûr. Oh là
là. Attention, mais d'ailleurs, ça sera intéressant d'avoir la discussion parce que c'est vrai que le terme ego est souvent vu d'une manière très négative en France, surtout. Et on va en parler tout à l'heure. Allez, tout de suite, on repart du top 14. Montpellier est venu mourir à 8 petits points du Stade Toulousain qui a décroché son quatrième bouclier consécutif hier soir au Stade de France. Les Héroletais ont eu des occasions, beaucoup, en seconde mi-temps pour revenir sans parvenir à concrétiser. Punchline signé Auguste Cadeau, le centre montpelliérain.
RMC, la punchline GG.
Dégoûté de passer à côté, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut revenir de nouveau. C'est une finale top 14, donc on voit la difficulté et la longueur d'une saison. Évidemment que ça va être un vecteur de motivation pour l'année prochaine. Ça fait chier de passer à côté aujourd'hui. Parce qu'on avait largement la place, je pense. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr. Quand vous dites qu'on les regarde dans le bras dans les yeux, j'ai envie de vous dire encore heureux, parce que nous, on y croyait. D'ailleurs, il y avait bien que notre groupe qui y croyait. Et on a prouvé qu'on pouvait rivaliser, mais c'est même pas fou, c'est nul de pouvoir dire ça, parce qu'on voulait montrer un peu à tout le monde qu'on était largement capable de gagner. Et aujourd'hui, on se bouffe les doigts, donc ça fait chier.
On se bouffe les doigts, dit l'ami Auguste Cadeau, donc le centre montpelliérain. Les GG, je vous pose une question très simple. Est-ce que Toulouse était vraiment prenable? On a écouté les mots d'Hugo Mola tout à l'heure, qui est assez intéressant, le manager du Stade Toulousain, qui dit on a fait une mauvaise deuxième mi-temps, mais on avait de la marge. Est-ce que Toulouse était vraiment prenable, Cédric Emmons?
Oui.
Philippe Saint-André?
Oui.
Mario Martoli?
Oui.
Jérôme Pinault?
De mon œil non avisé, oui.
Ah, vous êtes tous d'accord. Alors, Cédric, pourquoi tu penses que Toulouse était vraiment prenable?
Oui, parce qu'ils ont été dominés dans la possession, dans l'occupation, parce que sur les lancements de jeu, surtout, ils ont été contrés. En mêlée, ça a été compliqué. Ils n'ont pas envoyé le jeu qu'ils voulaient envoyer parce que la densité physique de cette équipe de Montpellier les a pas fait déjouer, mais leur a pas permis de mettre le jeu qu'on voit, le jeu de passe, vite fait, bien fait, le volume de jeu qu'ils voulaient mettre. Et après, Montpellier a eu tellement d'occasions, 9 points pas pris au pied, ils se sont entêtés à vouloir aller en touche et pas marquer d'essai. Ils ont des turnovers plutôt mal joués.
Ils vont 14 fois dans les 22 mètres toulousains, ils n'en ont tiré que 20 points.
Oui, et voilà, et le côté clinique de Toulouse où en première période, ils vont 3 fois, 2 essais, une pénalité. Ils étaient prenables, mais c'est le Stade Toulousain, hein, ils n'ont pas été pris.
Franchement, ils étaient vraiment prenables, Philippe, ou Toulouse et quand même en maîtrise. En fait, moi, c'est la question que je me suis posée, surtout en réécoutant Hugo Mola. Est-ce que quand même les Toulousains, je les ai pas sentis en panique en fait sur ce match dans les moments
le
chauds.
Pas, hein.
Non, mais c'est pour ça en fait. Est-ce que on se fait pas une idée de ce qu'aurait pu être cette finale? T'en penses quoi?
Ben non, parce que en deuxième mi-temps, ils ont pas paniqué, mais ils avaient 8 points d'avance. Mais en deuxième mi-temps, ils ont pas de possession, ils sont un peu bousculés au niveau de la conquête, comme dit Cédric. Et puis ils n'ont pas le ballon. Attention, les Toulousains, ils ont été efficaces, ils ont été intelligents en mêlée. Tout de suite, ils talonnaient très rapidement et Roumat, qui a fait un très très grand match, prenait le ballon rapidement pour sortir de ces zones de combat collectif. Mais Montpellier, quand tu rentres 5 fois dans les zones de marque et que tu ne marques pas, que tu oublies, comme tu dis Cédric, je pense qu'ils auraient dû prendre la pénalité en fin de première mi-temps, 22 mètres en face des poteaux.
C'est Montpellier qui perd le match plus que Toulouse qui gagne.
Je pense que c'est le manque d'expérience, de sérénité à ce moment-là.
En finale, il faut coller. En finale, il faut coller au score. Ouais. Il faut être à moins de 7 points parce qu'à moins de 7 points, tu es pas à l'abri d'une interception, d'un essai transformé, etc. Là, tu te dis, oui, Toulouse, ils n'ont pas paniqué parce qu'ils avaient encore cette marge de 8 points. 8, mais ouais, que tu vois les joueurs, que tu vois le public toulousain, ils n'étaient pas sereins sur la dernière demi-heure. Par contre, les Toulousains ont très bien défendu dans les dans leur zone de marque, et surtout Montpellier qui normalement est très fort, très efficace sur les ballons portés, très efficace sur les pénalités jouées à la main près des lignes de marque. Et ben là, et ben il y avait aussi le troisième ligne et le capitaine de Toulouse
qui a été incroyable, exceptionnel.
Pourquoi? Parce que dans tous les moments chauds, il a fait un récital à la Macco. C'est-à-dire qu'on l'a pas énormément vu gratter.
Mais il a 4 turnovers incroyables.
4 turnovers magnifiques.
C'était le climatiseur du Stade de France.
À chaque fois que Montpellier avait possibilité. Et après, Toulouse a fait preuve de roublardise parce qu'ils savaient qu'ils étaient attendus sur le contre en touche. Le premier essai, c'est toute l'expérience. Il n'y a que qui peuvent le tenter.
Je vais te dire, si les Toulousains, si c'était aussi facile que ça, ils n'auraient pas été aussi pénalisés. Ils ont pris beaucoup de pénalités.
Et c'est là que les Montpellierais ont manqué de lucidité. Tu peux pas laisser passer 9 points en finale face au Stade Toulousain. Tu dois prendre les points. Philippe a raison. Si tu colles pas, tu n'existes pas.
C'est une certitude. Mais alors, moi, je me suis posé cette question aussi. Si, est-ce que Toulouse était vraiment prenable? Parce qu'effectivement, il y a l'expérience de la finale. Et à quel point ça compte? Marion, toi, t'as pas gagné Wimbledon à ta première finale, par exemple. Non, mais à quel point, t'as pas gagné le top 14 aussi, a priori. non, mais en fait, à quel point le fait de connaître les moments chauds à ta deuxième tentative, ça fait complètement la différence? Moi, c'est ça que je me dis sur la gestion de la panique et des moments compliqués.
Totalement, et c'est d'ailleurs pour ça que les joueuses inexpérimentées qui sont arrivées à remporter leur première finale du Grand Chelem, notamment celles qui sont arrivées justement, on parlait de Serena, battre Serena alors que c'était pour elles leur première finale du Grand Chelem, j'ai un immense respect pour elles parce que c'est d'une difficulté qui est absolue. Et c'est, tu as totalement raison, ça a été dit avec le fait que c'était la première fois pour malheureusement les Montpellierains que ça s'est senti, parce que d'ailleurs Leninouchi l'a exprimé à la fin de ce match. Il l'a dit, franchement, était mené 25-6 à la mi-temps, c'est difficile de gagner. Tout le monde pensait qu'on allait en prendre 80, mais quand on remonte à la deuxième, bah nous c'était la première fois qu'on était en finale et eux ils y vont chaque année. Voilà, je pense que ça fait une immense différence. Ça fait une immense différence, mais néanmoins, je crois qu'ils vont énormément apprendre de cela. Ils vont énormément apprendre de cette défaite-là, même si elle est cruelle, même si elle doit certainement faire mal et même s'ils vont ressasser toutes les occasions ratées pendant beaucoup de jours. C'est aussi ce qui va leur permettre sur la saison prochaine d'être encore plus saignants sur les matchs. Il va falloir être plus saignants et d'être mieux préparés s'ils ont la chance, de pouvoir rejouer cette finale. Après, le problème, c'est d'y être à nouveau. Moi, ça m'a
Au réveil, quand ils vont regarder les stats, ils vont revoir le match. Je pense qu'ils vont avoir mal à la tête. Et pour avoir perdu des finales, quand tu sens que tu l'as et que tu peux le prendre et que tu ne le prends pas, la saison d'après, elle est compliquée. Elle est
surtout, ils font un 14-3 pour eux en deuxième mi-temps en loupant beaucoup d'occasions.
Non, mais Jérôme, franchement, est-ce que tu t'es posé la question toi aussi? Est-ce que Toulouse était vraiment vulnérable en fait?
Moi, j'ai juste, je me suis posé cette question-là et surtout, je me suis dit, ils vont chier à la porte pour peu sur la dernière.
Ah, mais dans les écuries, c'est normal.
Mais sur la dernière demi-heure, notamment sur la dernière. Je pense que sur l'ensemble du match, Toulouse n'était pas forcément prenable sur l'ensemble, mais sur la dernière demi-heure. On a vu des Toulousains qui déjouaient, on a vu des Toulousains qui étaient pas sereins,
qui étaient sous pression,
et on a vu des Montpellierains qui ont pas saisi les occasions comme il le fallait.
Après, les Toulousains sont inquiets.
Quasiment autant paniqué les Montpellierains que les Toulousains en menant au score, en prenant des mauvaises décisions. Moi, ce que j'ai aussi vu, c'est que Montpellier était annoncé comme l'équipe qui allait le plus embêter Toulouse. Ils l'ont fait puisque on n'a pas tellement vu Antoine Dupont, par exemple.
Oui, bien sûr.
Ils l'ont éteint.
On en a vu d'autres.
Oui, mais tu sais.
Mais après, dans cette partie de match, évidemment, si tu juges que les 30 dernières minutes, tu te dis oui. Mais sur l'ensemble du match, la première mi-temps, ça déroule.
Tiens, moi,
la mi-temps, tu te dis.
Mais Toulouse restera toujours pour moi une espèce de montagne.
Venir échouer, tu sais, c'est.
Bien sûr.
Tu dis que
ça a perdu le final depuis 2006.
Non, mais tu dis que ça déroule. Au bout de 20 minutes, Montpellier a 70% de possession. La seule chose de Toulouse, c'est
ils ont été intelligents,
ils ont été très bons dans la stratégie, et trois, c'est la qualité du Stade Toulousain. Il y a d'abord un exploit personnel du talonneur, et après ils mettent deux animations, ils percent deux fois Montpellier et ils marquent. Donc il faut
sur WhatsApp, excuse-moi Marion, Fred me dit Toulouse a été prenable, mais du coup pourquoi Montpellier ne les a pas pris ni l'UBB l'an dernier, évidemment. J'ai aussi beaucoup de messages, et je voulais profiter de Cédric et Philippe de vous avoir, parce que ça fait beaucoup parler depuis hier. Est-ce qu'il y avait essai de pénalité pour Montpellier en deuxième mi-temps? Est-ce que l'arbitrage a été en faveur du Stade Toulousain sur cette finale?
Non, mais là, il ne faut pas se cacher derrière l'arbitrage. Moi, du moins, c'est mon avis.
Je n'ai pas encore revu le match, mais il y a 2-3 décisions en mêlée peut-être.
Oui,
en mêlée. Mais je ne suis pas spécialiste, donc non, ça va être compliqué. Après... Et sur l'essai, pour moi, s'il y a un joueur montpelliérain qui peut se saisir du ballon, il y aurait eu essai de pénalité.
C'était pas évident, en fait.
Et c'est pas évident, et puis le ballon va vers
le ballon va sortir en touche. Donc,
le match ne se perd pas là-dessus, en fait. C'est ça qu'on veut exprimer clairement ce matin.
Après, ce qui est sûr, c'est que sur les mêlées... tu voyais que le Stade Toulousain sur l'impact était en difficulté et c'est là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont talonné, ils ont mis le ballon très rapidement dans les pieds du troisième in-centre. Les mêlées ont été souvent écroulées et je pense que bon, l'arbitre, vu que le ballon était dans les pieds de Roumat, il a laissé jouer. Tu vas parler du côté de Montpellier, ils auraient aimé avoir récupéré une ou deux pénalités supplémentaires sur le fait que il dominait sur les impacts. Moi, ce que la mêlée Toulousaine.
L'intelligence de faire cette touche au bon moment parce que c'est travaillé et l'intelligence de Virgile Lacombe sur les mêlées de dire on sait que on peut être en difficulté, ils ont mis le ballon très vite dans les pieds de Rouma.
Mais dans la gestion du match, ils ont été
un match extraordinaire de démarrer derrière. Il a
lui c'est aussi l'intelligence de Toulouse.
L'intelligence situationnelle de Pierre Villepreux. Voilà.
Le Stade Toulousain donc repart avec un quatrième bouclier Brennus consécutif, le 25e dans son histoire. Les Toulousains qui vont être fêtés, hein, évidemment, aujourd'hui à Toulouse, ils vont rentrer.
Ça manque.
Ça te manque, ça?
Ah ben ouais, parce que là, la ville t'appartient. Ah, s'il y a bien une ville où tout s'arrête. Les rugbyman sans roi, c'est là.
Ah bah c'est bien, le Capitole, c'est un peu chez toi, quoi. C'est là le rendez-vous est donné, évidemment. Ils vont arriver vers 15h45 à Toulouse, comme Wilfried Templier. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'il va continuer de suivre ça aujourd'hui. Il va peut-être soulever Wilfried comme ça, comme le mouvement.
Il va soulever Wilfried. Ouais.
Allez, dans un instant, les amis, on va reparler de la Coupe du Monde de football, hein, parce que la phase de groupe est terminée. On arrive à la phase éliminatoire. Est-ce que la Coupe du Monde commence enfin? Et puis le vestiaire des GG, la gestion des égos. Oh, ça va être intéressant.
J'adore.
Ça. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.